Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce 26 août 2015 à cette autre édition de CIBL reçoit Entêté d'avenir en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le thème de l'émission aujourd'hui, et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard, quoi qu'il y aurait pu ne pas avoir de contexte pour parler des femmes et du combat national, mais voilà le thème pour aujourd'hui. On aura en entrevue Nicole Boudreau qui est entre autres ex-présidente, la seule à avoir été présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Déjà avec nous en studio, Claudette Carbonneau, qui elle aussi a été la seule à être présidente de la CSN. Dans ce cas-ci, on y reviendra un petit peu plus tard. Et en toute fin d'émission, Catherine Fournier, l'une des conseillères générales de la SSJBM et candidate bloquiste en ce moment même dans la circonscription de Montarville. Mais comme à notre bonne habitude, et au diable le pont musical qui va après ça habituellement, Maître Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour.
Bonjour Guillaume, ça va bien?
Ça va bien. Et toi?
Ah, ben oui, ça va très bien. On s'est ressourcé un peu cet été.
OK.
Il a fait chaud. Hein, peut-être parfois trop chaud. Mais on va pas trop se plaindre, surtout que l'hiver s'en vient plus vite qu'on le pense.
Hein. Mm-hmm. Et pourquoi le choix de ce thème aujourd'hui, les femmes et le combat national?
Ben, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que Nicole Boudreau va bien l'expliquer. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a joué un rôle important avec son aile féminine de l'époque, mm-hmm. du début du siècle, en fait, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dans l'essor du mouvement féministe québécois. En fait, c'est le premier mouvement féministe organisé au Québec, avec Marie-Gérin Lajoie, etc. On va en entendre parler. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est une raison, en fait, circonstancielle. C'est parce que on met sur pied un nouveau prix, le Grand Prix Hélène Pedneau.
Oui.
Alors, qui est pour récompenser une femme qui s'est distinguée dans le combat pour l'avancement des intérêts et de la cause des femmes.
Et pour ceux qui connaissent peu Hélène Pedneau, ne vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus tard.
Certainement, certainement. Et Nicole Boudreau, d'ailleurs, a été une de ses bonnes amies. Alors, c'est la raison pour laquelle le thème de cette dernière émission d'une série de 10 hein, qu'on a débuté dans... C'est une série d'émissions qui s'inscrit dans le cadre du 180e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, c'est la raison pour laquelle le thème aujourd'hui est les femmes, le combat national, la société. Alors, voilà. Et comme à l'habitude, peut-être on peut faire une revue...
Ben, c'est pas parce que c'est la dernière de la saison d'Entêté d'avenir qu'il se passe rien entre deux émissions et par après du côté de
la pas parce qu'il y a une campagne fédérale ou parce que c'est l'été qu'il se passe rien. Justement, parlant de campagne fédérale, le 4 août, vous voyez, je suis intervenu dans les médias au sujet de la qualité de la langue française écrite et même parlée, notamment chez Élections Canada, puisqu'on a retrouvé sur ce site une multitude de fautes d'orthographe, oui. De syntaxe, etc., mais aussi chez nos politiciens fédéraux. On a vu ce premier slogan de Justin Trudeau du Parti libéral du Canada hein, qui était « Il est temps pour changer ensemble ». Alors,
dans ces situations-là, est-ce que vous souriez ou vous pleurez? Ah, un peu des deux.
Je suis très ambivalent. Je pense que j'ai un petit moment de bipolarité là, okay. parce que c'est du français effectivement qui se pense évidemment à travers la langue anglaise. C'est une langue aliénée, comme disait Gaston Miron.
Ouais.
Alors donc il y a une intervention là-dessus. Le 17 août, j'ai eu aussi une entrevue à Radio-Canada au sujet de la cause Caron. Alors la cause Caron, c'est une affaire qui est en Cour suprême en ce moment.
Mm-hmm.
C'est l'histoire d'un francophone d'Alberta qui s'est fait arrêter pour, je ne sais trop, une infraction au code de sécurité routière. Il s'est fait remettre un constat d'infraction en anglais seulement. Et lui, il prétend que il aurait dû recevoir un constat d'infraction en français ou du moins bilingue, puisqu'il y a une proclamation royale qui a été faite en 1869,
mm-hmm.
okay, par le gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique. À ce moment-là, ce territoire-là était sous le contrôle de la compagnie de la baie du Tson. C'était, ça s'appelait la Terre de Rupert et c'était avant l'annexion de la Terre de Rupert au Canada. Et la proclamation royale disait « On vous promet, chers métis, chers francophones, que vous conserverez les mêmes droits dans le Canada ». Or, malheureusement, c'est pas exactement ce qui s'est passé dans les faits, mais donc c'est Monsieur Caron qui se bat avec plusieurs associations francophones de l'ouest du Canada, mm-hmm. se battent pour faire reconnaître donc un statut constitutionnellement bilingue à la Saskatchewan et à l'Alberta. On va voir ce que ça va donner puisque la décision va arriver au courant de la présente campagne. Le 22 août, c'était la journée du souvenir de la fin de la traite transatlantique des Noirs et de l'abolition de l'esclavage. C'est un événement qui a été organisé par la Ligue des Noirs. Alors, je pense que ça valait la peine de le mentionner. Maintenant, on se porte dans l'avenir, là, les prochains jours. Le 29 août, il y a un méchoui des Oui Québec, des organisations unies pour l'indépendance, dont Claudette et moi faisons partie.
Okay.
Donc, ça a lieu à la campagne. On vous invite à consulter le site souveraineté.info pour vous informer.
Il y a le mot « oui » dans « méchoui » en plus.
Mais c'est ça, c'est très concept, ça, n'est-ce pas? Alors, le 13 septembre, ensuite, il y a un déjeuner-conférence à la Maison du Jésus du Vernet, 82 rue Sherbrooke-Ouest, avec l'historien Éric Bédard. C'est au sujet de son livre, apparaît bientôt, au sujet du référendum de 1995, dont on célèbre plus ou moins joyeusement ou plus ou moins tristement, selon les gens, le 20e anniversaire cette année. Retour des soirées du réseau Cap Soin Indépendance. Les dates seront à confirmer. Ce seront des soirées cinéma, donc des films qui traitent en fait de la question de l'indépendance ici et ailleurs dans le monde. Et enfin, le 24 septembre au soir, c'est la remise du nouveau prix Hélène Pennault, dont j'ai parlé plus tôt et dont il va être question aujourd'hui.
Soirée qui sera animée par l'interviewé qui s'en vient, Nicole Boudreau. Et là, on m'a dit de vous prévenir, chers auditeurs. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de la radio dans la vie. L'entretien avec Nicole Boudreau a été réalisé un petit peu plus tôt que ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous constatez bien en ce moment que je n'ai pas une voix de canard, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'entrevue que vous allez entendre dans quelques instants, j'en ai une. Ceci étant dit, je vous invite à passer outre ma propre voix.
C'est un noble animal, le canard.
Ben oui, tout à fait. Un emblème du dollar canadien, d'ailleurs.
Ouais.
Ouais, je comprends la réaction.
Mais c'est pas par sa faute.
Tout ça pour dire que le contenu de l'entrevue, peu importe mon timbre de voix, en vaut la chandelle. Donc, restez avec nous et à tout de suite. On est de retour à CIBL reçoit Entêté d'avenir au 101.5 FM et il était bien normal dans cette émission produite en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et portant aujourd'hui sur les femmes et le combat national, et bien de s'entretenir avec la seule femme à avoir été en à peu près 180 ans d'histoire à la présidence de la SSJBM. À l'autre bout du fil avec moi, Nicole Boudreau, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un grand plaisir pour moi.
Est-ce qu'on peut, pour le bénéfice des auditeurs et pour le mien aussi, soyons candides, dresser peut-être un petit récit de ce qui vous a mené à la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et votre intérêt à devenir présidente?
En fait, je suis devenue membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal le 21 mai 1980. C'est donc dire au lendemain du premier référendum sur la question nationale du Québec. Le motif de mon adhésion à la Société Saint-Jean-Baptiste était tout simple. Alors que les leaders politiques multipliaient les déclarations qui allaient « bon, ben voilà, on a perdu le référendum, rendez-vous manqué avec l'histoire », le président de l'époque, qui était Marcel Henry, lui, avait fait une déclaration qui m'avait beaucoup plu, une déclaration au cours de laquelle il disait « ben voilà, ça fait des années qu'on voulait savoir combien nous étions. Nous savons maintenant que 40% des Québécois optent résolument pour l'indépendance nationale du Québec. Alors à partir de maintenant, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est un regroupement de la société civile, n'a plus qu'une chose à faire, c'est se retrousser les manches et travailler à l'avènement du pays du Québec. » Et moi, ça m'avait absolument plu, cette déclaration-là. Je suis devenue membre au lendemain, donc, du référendum de 1980, et j'en suis devenue la présidente en 1986.
Effectivement, ben, au fil des ans de votre implication, qui a été donc quand même un brin réactif, et c'est vrai que dit comme ça, ça m'aurait donné le goût aussi, j'ai l'impression, de m'y enrôler. Tranquillement, vous avez gravi les échelons un peu. Est-ce que être la première femme présidente, c'était un élément de motivation ou ça a simplement été une suite logique de votre implication?
Non, ça n'a pas été une motivation du tout. Par ailleurs, quand j'ai accédé à la présidence, étant la première femme, j'ai eu à cœur d'exercer un leadership que je croyais davantage féminin. C'est-à-dire, je ne me suis pas dédiée. J'étais la première femme, j'étais surtout une femme qui avait envie d'exercer son pouvoir comme une femme. Et je pense que si j'ai attiré une fierté de cette présidence-là. Il y a beaucoup de motifs. Toutes les luttes pour le Québec français, c'était le temps du lac Meech. Ça préparait le premier défilé, le retour du défilé, en fait, de la fête nationale. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'être fière de ma présidence. Mais je pense que si j'avais à attirer là un élément de fierté de cette présidence-là, c'est d'avoir constamment, de m'être constamment rappelé que celle qui présidait aux destinées de cet organisme que j'ai été très fière de présider était une femme et qu'elle allait exercer son leadership comme une femme.
Mm-hmm. Et je suppose, par contre, évidemment, on parle de 86 à 89, que vous avez par moments été peut-être moins prise au sérieux dans certains moments parce que vous étiez une femme ou que vous avez été victime de sexisme. Carrément, ça a dû arriver quand même.
Ben, compte tenu de ma personnalité, je doute, et je le dis sans aucune prétention, de ne pas avoir été prise au sérieux. Par ailleurs, effectivement, j'ai buté sur plusieurs difficultés qui étaient liées à ma condition de femme. Mais ça ne s'incarnait pas dans le style, ben, c'est une femme, on ne la prend pas au sérieux. Non, ça s'incarnait de d'autres façons. Par ailleurs, effectivement, je pense que de tenir bon, et puis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, exercer un leadership comme une femme? Très souvent, nous, les femmes, on est portées à la conciliation. Mm-hmm. Elle est importante pour nous parce qu'elle génère très souvent des mouvements qui sont beaucoup plus solides. Alors, il faut s'en rappeler quand on a à transiger au quotidien dans des dossiers qui, ma foi, sont assez litigieux parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, on ne construit pas un pays sans déplaire à certains. On ne promeut pas, comme nous l'avons fait entre 1986 et 89, la langue française comme nous l'avons fait sans déplaire à certaines personnes. Alors oui, il y avait quelquefois des échanges musclés qui étaient dus tant à ma condition de femme qui voulait, je le répète, exercer son leadership comme une femme, mais à ma condition également de personne engagée à l'intérieur d'un combat qui, bien sûr, ne ralliait pas tout le monde.
Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas qu'une femme, vous êtes une militante de longue date avant, après cette présidence-là. L'aspect de touche féminine et dialogue dont vous parliez tout à l'heure, moi, je trouve ça intéressant en m'étant documenté un brin quand même, c'est mon travail, que vos principaux chevaux de bataille entre 86 et 89, ben dans beaucoup de cas, ce sont des enjeux qui sont encore extrêmement actuels aujourd'hui. Là, on parle de défense de la langue française, beaucoup également d'une intégration optimale des nouveaux arrivants et puis un dialogue avec la communauté anglophone également. Donc, ce sont des choses qui demeurent aujourd'hui.
Ah, écoutez, ce sont des choses qui sont très d'actualité, mais qui malheureusement m'apparaissent un peu évanescentes dans les débats actuels. Et je le déplore, je le regrette. Quand j'ai été élue à la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste, il n'y avait pas pour moi de moyen de me débiner. Je n'avais qu'un seul mandat de l'Assemblée générale qui m'a élue au poste de présidente et c'était une campagne qui s'appelait « Ne touchez pas à la loi 101 ». Alors donc, évidemment, la question linguistique était fort importante. Également, il nous fallait faire preuve et œuvre, si je puis dire, de pédagogie, dans la mesure où il nous fallait expliquer inlassablement que se battre pour nos droits, ce n'était pas nier ceux des autres. De là, les rapprochements que j'ai tenté de faire de façon constante avec la communauté anglophone, qui est une communauté importante au Québec, qui a contribué à l'essor du Québec,
absolument.
Montréal précisément. Alors donc, et de là, bien sûr, mon engagement auprès des populations immigrantes. Vous savez, moi, je suis un petit peu un modèle de ça. Moi, j'ai une grand-mère qui est amérindienne, j'ai un père qui est acadien, je suis moi-même née de mère québécoise, mon fils est indien quichua d'Équateur, sa femme est coréenne, et mon petit-fils, c'est le produit de tout ça. Alors, c'est ça le Québec, c'est ça le Québec de demain. Donc, pour moi, c'était aussi un incontournable. Et évidemment, tout ça amenait à la question nationale.
Ouais.
Bon, pour moi, évidemment, mes opinions sont claires à ce chapitre-là. Je suis une indépendantiste que l'on pourrait sans doute qualifier de pure et dure. Et je dirais que mon adhésion à l'indépendance nationale du Québec provient du fait que quand on comprend que le Québec a la stature d'un État, on a de la grande difficulté à le voir confiné dans le carcan d'une province. Alors donc, évidemment, la question de la bataille linguistique, les questions identitaires menaient directement à la question nationale.
Je reviens à la SSJBM elle-même. À votre avis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de présidente avant vous et surtout, comment ça se fait qu'il n'y en a pas eu après vous?
Je le déplore, croyez bien. Je trouve ça assez inquiétant qu'un organisme n'ait eu à sa tête qu'une ribambelle d'hommes. Moi, je suis venue briser cette petite routine-là et vous le soulignez très justement, depuis mon départ, malheureusement, il n'y a eu aucune femme. Je dirais, moi, que le jeune président de la société, actuellement, il travaille ardemment. Je dirais que le président qui l'a précédé, Mario Beaulieu, l'a fait également. Alors, effectivement, on ne peut que déplorer qu'il n'y ait eu qu'une seule femme à la tête de la société Saint-Jean-Baptiste, mais moi, ce que je souhaite, c'est que très bientôt, j'espère en remplacement du nouveau président, même si on lui souhaite longue vie, ben on pense enfin qu'une autre femme pourrait effectivement prendre sa place à la tête de cette société-là. Non pas uniquement pour ce que l'on appelle de la discrimination positive, mais simplement parce que il y a tant de femmes présentement qui ont un discours cohérent et intéressant sur la question nationale que je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas à nouveau se hisser à la tête de cette société-là.
Et d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, on sera en entrevue avec Catherine Fournier, 23 ans, candidate du Bloc dans Monterville, un propos très intéressant. C'est pas parce que, ben, vous, la première femme à avoir été présidente de la SSJBM, a été nommée en 86 qu'auparavant, et vous parliez d'actes glorieux tantôt, qu'il n'y a pas de femmes qui ont fait d'immenses choses au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste dans le passé, à commencer par la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, ce mouvement, ce grand premier mouvement féministe de l'histoire du Québec, si je ne m'abuse, et vous connaissez sans doute cette histoire-là mieux que moi. On voulait en glisser un mot aujourd'hui.
Ah, écoutez, sur ça, moi, je suis intarissable, parce que vous ne pouvez pas savoir comment, moi, j'admire profondément les deux instigatrices de ce mouvement-là, qui sont d'abord Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, et je rappelle, pour le bénéfice de vos auditeurs, que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, c'est la sœur de Justine Lacoste-Beaubien, la fondatrice de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, d'un côté, à la tête de la Société Saint-Jean, de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, on a Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et on a Caroline Béic, qui en est la présidente, la première présidente, et qui est la femme du président de l'époque. Ce qu'il faut comprendre dans cette petite histoire de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est que d'abord, Marie Gérin-Lajoie et Caroline Béic appartenaient à une organisation qui s'appelait le Montreal Local Council of Women, qui, bien qu'étant un mouvement non confessionnel, était un mouvement majoritairement anglophone, donc même si c'était non confessionnel, d'obédience protestante. Alors, elles appartiennent à ce mouvement-là et puis finalement, elles veulent engager les femmes canadiennes françaises, ne réussissent pas à le faire à l'intérieur du Montreal Local, donc décident qu'elles vont, parce qu'avant même l'existence de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, elles décident qu'elles vont former un groupe à l'intérieur de la Société Saint-Jean-Baptiste, et c'est le groupe des Dames patronesses. Ça se passe au début du siècle, plus précisément en 1902, alors que le Montreal Local est né à la fin du 19e siècle, en 1893. En 1907, exit les Dames patronesses de la société. Marie Gérin-Lajoie, Caroline Béic quittent en même temps le Montreal Local et fondent la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Quels étaient les buts de cette fédération nationale-là? D'abord, la Fédération nationale voulait protéger les femmes contre la violence conjugale. Elle se battait contre l'alcoolisme. Elle voulait, imaginez-vous, à ce moment-là, elle voulait professionnaliser le travail domestique. Est-ce que c'est pas extraordinaire?
Quand même.
Elle luttait beaucoup, beaucoup contre la mortalité infantile parce que c'était un fléau terrible, surtout dans les grands centres urbains qui étaient nouvellement industrialisés. Et ensuite, évidemment, elle se battait pour le droit de vote des femmes. Et puis, attendez, c'était pas tout. Elle souhaitait également former des femmes à la politique. Puis, parce que Justine Lacoste-Beaubien, qui était toute fondatrice de l'hôpital Sainte-Justine, ne pouvait même pas signer ses documents elle-même, qu'elle devait avoir la caution de son mari, elle voulait faire modifier le statut matrimonial des femmes. Puis finalement, ben là, ça me rejoint. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, parce que c'est ma première valeur dans la vie. Elle se battait, elle revendiquait le droit à l'instruction supérieure pour les femmes. Et d'ailleurs, vous savez que la fille de Marie Gérin-Lajoie, donc Marie Gérin-Lajoie fille, qui est la première bachelière du Québec, a elle-même fondé l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil en 1923. Alors, c'était dire à quel point la mère était tenace dans son engagement pour l'instruction des femmes. Ce qu'il faut dire aussi de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de le rappeler, c'est qu'elle n'était pas dépendante de la Société Saint-Jean-Baptiste. Elles avaient chaque année des campagnes de financement qui s'appelaient le denier national, où elles recueillaient les sommes d'argent qui étaient nécessaires au soutien de leur action politique. Alors, écoutez, moi, je suis béate d'admiration devant l'action politique de ces femmes-là.
Ben, je crois qu'il faut se rappeler de tout ce qu'elles ont fait, non seulement du côté féminin, mais je pense que la société en général a grandement à les remercier et profite de leur apport aujourd'hui. Il y a une autre femme dont on voulait parler, et le prétexte de cette émission Les femmes et le combat national aujourd'hui en tête d'avenir, ben c'est la création et la présentation prochaine du nouveau prix Hélène Pedneau par la SSJBM, et vous étiez très proche d'ailleurs, si je me trompe pas, la dernière fois que vous avez véritablement publiquement parlé en tant qu'ex-président de la SSJBM, c'était à son décès qui est arrivé beaucoup trop tôt, à l'âge de 56 ans, en 2008, emporté d'un cancer des ovaires. Hélène Pedneau, publiquement, qui était-elle?
Bon, d'abord, s'il y a un autre sujet sur lequel je suis intarissable, c'est Hélène Pedneau. Hélène Pedneau, c'était une géante québécoise qui, fort heureusement, a été reconnue de temps à autre, dont par la Société Saint-Jean-Baptiste elle-même, qui l'a déclarée en 2009, c'est-à-dire l'année qui a suivi son décès, patriote de l'année à titre posthume. Bon, Hélène Pedneau, c'était d'abord et avant tout une écrivaine. C'était une féministe québécoise qu'on a découvert, au moment des chroniques de La Vie en rose. Ensuite, elle a, bien sûr, amorcé une carrière d'écrivaine, une écrivaine de théâtre, avec une pièce qui a fait époque et qui s'appelait La Déposition. Elle a écrit également un livre absolument extraordinaire que je recommande à tous vos auditeurs pour en finir avec l'excellence, qui est un livre extraordinaire, La douleur des volcans. Elle a fait, bien sûr, Les carnets du lac et puis toutes les chroniques de La Vie en rose qui ont été condensées dans deux ou trois volumes. Hélène a également écrit la biographie de Clémence Desrochers. Elle a été d'ailleurs l'agente de Clémence Desrochers. Voilà donc pour sa carrière d'écrivaine, de femme de théâtre, de féministe engagée. Mais Hélène n'était pas que ça. Et c'est la raison pour laquelle je la proclame géante. Hélène était également une femme engagée dans tout ce qui concernait ce que j'appelle le pays réel, c'est-à-dire la question nationale, la question de l'environnement, la question de l'éducation, la question de la santé. Hélène avait son franc-parler. Elle était, je pense, autant appréciée des femmes que des hommes qui reconnaissaient en elle une maîtresse-femme absolument extraordinaire. Et vous avez raison de le dire, elle nous a été enlevée beaucoup trop tôt.
Absolument. Et personnellement, ben vous étiez très proche, justement. Comment cette amitié-là s'est forgée? Et est-ce qu'il y avait une différence entre la Hélène Pinneau publique et la Hélène Pinneau en privé? Je crois que non. Je devine que non.
Alors d'abord, l'émergence de cette amitié-là, c'est lors du deuxième référendum. Vous voyez comment la vie nationale ponctue nos vies personnelles. Hein?
Ben
oui. Alors donc, deuxième référendum, je suis à ce moment-là porte-parole de la Coalition des partenaires pour la souveraineté, qui est une incarnation de la société civile. Je représente 1 million de personnes. Il y a la Commission nationale, bien sûr, sur l'avenir du Québec, et je dis à mes collaborateurs, nulle autre personne que Hélène Pinneau ne peut mieux traduire dans un langage pétri d'humanité qui nous sommes et ce que nous voulons faire à l'intérieur de ce référendum-là. Et effectivement, elle accepte. Je ne la connais pas du tout à l'époque. Je suis béate d'admiration devant son œuvre, devant le personnage. Je la rencontre donc, et c'est le début d'une longue collaboration et surtout d'une longue amitié. Nous avions toutes les deux, bien sûr, des idées qui se rapprochaient énormément, tant sur la question nationale que sur la question des femmes. Nous avions également une obsession, tous les deux, qui était celle de la rupture avec la mode du prêt-à-porter de la pensée. Nous pensions qu'il fallait dire les choses haut et fort et clairement et que nous n'avions aucune raison de ne pas effectivement avoir un langage clair. Alors, il ne fallait pas s'étonner que Hélène devienne une amie très proche. Il ne fallait pas s'étonner, bien sûr, que nous ayons été un groupe de femmes à l'accompagner dans la mort. Il ne faut pas s'étonner également qu'Hélène ait eu la générosité de céder tous ses biens à la fondation Léa Robach, qui est présidée, bien sûr, on le sait, par Madame Lorraine Pagé, et une fondation qui s'occupe de l'éducation chez les femmes. Alors, c'était tout ça, Hélène Pinneau. Si vous ne connaissez pas Hélène Pinneau, il faut lire son œuvre, il faut lire tous les textes qu'elle a publiés à droite et à gauche. C'est une personne qui était infiniment inspirante et, je le répète, de la stature d'une géante.
Donc, Mme Boudreau, vous allez animer l'événement de cette première remise de prix. J'ai pas la date sous la main. C'est
le 24 septembre prochain.
Le 24 septembre prochain, donc ça s'en vient. Est-ce que vous savez déjà qui l'emporte?
Ah, ben je le sais, mais je vous le dirai pas. Alors, il y a un embargo sur ça, bien sûr. Il appartiendra au président de la Société Saint-Jean-Baptiste en temps opportun. Mais je puis vous dire que le comité de sélection a fait un choix très judicieux.
Eh bien, j'aurais essayé de vous extirper les vers du nez à cet égard. Rapidement, là, aujourd'hui, les jeunes et le combat national, les jeunes femmes et le combat national, pourquoi il faut pas oublier tous ces legs-là des Marie Gérin Lajoie, Caroline Béic, d'Hélène Pinneau, de votre présidence à la SSJBM? Pourquoi c'est un devoir de mémoire, finalement?
Il y a un devoir de mémoire et il y a un devoir de notre société de faire la place tant aux femmes qu'à la relève, aux jeunes. Dans une communication publique que je faisais dernièrement sur la question nationale, je disais d'abord qu'il fallait retrouver le plaisir que les militants de ma génération ont eu à vouloir se faire un pays. Je ne sens pas ce plaisir présentement. Il me semble que c'est une condition sine qua non. Je disais également qu'il fallait faire de la place à la relève. Et moi, quand je parle de relève, je parle de femmes autant que d'hommes, de jeunes femmes autant que de jeunes hommes. Et nous, les vieux militants de ma génération, on est prêts à suivre maintenant. On a été à l'avant-scène un certain temps. On a pris nos responsabilités. Maintenant, on est prêts à rentrer un peu plus dans l'ombre et à suivre les jeunes. Qu'on laisse enfin émerger ces femmes-là, qu'on leur permette d'émerger, qu'on leur permette de prendre la place. Et puis moi, je pense que ça va probablement nous donner une bonne chance d'aller là où on veut et d'arriver, et surtout, et d'arriver là où on veut.
Les mettre à l'avant, oui. La collaboration intergénérationnelle, oui. Mais ces jeunes-là auront besoin de vous aussi parce qu'on se parle depuis tantôt et c'est très beau ce que vous dites depuis le début de l'entretien. Nicole Boudreau, entre autres, ex-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça a été un grand plaisir pour moi. Merci à vous.
Dans quelques instants, de l'autre côté des publicités, eh bien, on s'entretient. Elle est avec nous en studio avec Claudette Carbonneau, entre autres ex-présidente de la CSN ou Confédération des syndicats nationaux. Si vous êtes arrivé en mi-chemin d'entrevue en compagnie de Nicole Boudreau, ben, n'hésitez pas à nous réécouter en balado-diffusion au cibl1015.com. Dès que l'émission sera terminée, ce sera disponible tout ça. Vous écoutez Entêté d'avenir en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à l'antenne de CIBL 105 Montréal. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Et oui, c'est déjà reparti pour l'édition du 26 août 2015 de CIBL reçoit Entêté d'avenir. Guillaume Touzel-Bonde avec vous et avec plaisir à part ça, pour cette édition qu'on a intitulée en quelque sorte « Les femmes et le combat national ». On passe d'une pionnière à l'autre en quelque sorte après Nicole Boudreau qui a été la première et la seule présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Eh bien, avec nous en direct en studio, Madame Claudette Carbonneau qui a été la première et la seule présidente de la CSN ou Confédération des syndicats nationaux. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début d'après-midi.
Ben, tout le plaisir est pour moi.
Ça va bien?
Oui.
Fantastique. Je vais un peu commencer avec les mêmes questions qu'avec Nicole Boudreau. La CSN a vu le jour en 1921. Vous êtes la première et la seule à y avoir été présidente. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas eu d'autres avant?
Ben alors, écoutez...
À votre avis, bien sûr.
Deux choses à cet égard-là. C'est clair que je souhaiterais qu'il y en ait eu plus, puis qu'il y en ait plus aussi dans l'avenir. En même temps, quand on regarde les organisations syndicales à caractère multisectoriel, j'entends qu'ils représentent tous les métiers, tous les secteurs d'activité, le public comme le privé, ben je suis obligée de constater qu'on est assez rarissime à l'échelle de la planète. C'est vrai à l'échelle internationale. Quand j'étais à l'organisation internationale, je pense qu'on était trois. OK? Et au Québec, je suis malheureusement encore à ce jour la seule. Et j'avais l'habitude de dire dans les instances pour leur rappeler l'importance de cet enjeu-là et surtout de modifier, d'améliorer nos pratiques. Mm-hmm. Qu'il fallait quand même qu'ils reconnaissent là que moi j'avais été élue après 81 ans d'histoire à la CSN. Les femmes avaient certainement pas abusé du pouvoir au sein du mouvement syndical.
Je ne pense pas. Évidemment, bon, c'est un peu déplorable que ça ne soit pas arrivé avant. Par contre, vous me rassurez jusqu'à un certain point de constater que le phénomène est un peu partout. Oui. Mondialement, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement le dernier de classe pour autant au Québec.
Non, et je pense que ça s'observe dans tous les secteurs d'activité. Hein, qu'on regarde, je sais pas, les municipalités, la politique provinciale, la politique fédérale, on va observer exactement les mêmes phénomènes. Fort heureusement, aujourd'hui, le plafond de verre, il est brisé. Il y en a une couple qui ont réussi à passer à travers.
Il y a des bonnes fissures, disons.
Il y a un problème, je pense, maintenant, de plancher collant, dans le sens où les autres ont de la difficulté à prendre leur envol. Ouais. Et ça doit être un enjeu qui nous préoccupe. Écoutez, pour moi, là, cet enjeu-là, c'est d'abord et avant tout un enjeu, bien sûr, de justice. Tous les êtres humains ont le droit d'aller au bout de leur choix, de s'épanouir. C'est un enjeu aussi pour la société. Mm-hmm. On peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, se priver de la moitié des talents disponibles dans la société. Ce serait une bêtise incommensurable. Et le troisième élément, avoir vu dans différentes sphères de la société des femmes au pouvoir, oui, ça change des choses. Pour la société, pour la démocratie. Mm-hmm. Et là-dessus, j'aime juste le rappeler avec un exemple, OK?
Prenons seulement
la politique québécoise. Oui. Sur des enjeux qui touchaient les femmes prioritairement, il s'est trouvé que bien que très minoritaire, ce sont des femmes ministres de toute allégeance politique qui ont fait des grandes choses et qui ont changé des choses. Mm-hmm. Claire Kéclune-Casgrain, c'est le changement au Code civil, Lise Bacon, les premières subventions aux garderies, Pauline Marois, la mise en place des CPE, les congés parentaux, Louise Arel, l'équité salariale, Madame Gagnon-Tremblay, le patrimoine familial, Madame Forgette, la réalisation de l'équité salariale dans le secteur public québécois, même Lise Payette, hein, une féministe, la marque qu'elle a laissée au niveau de l'assurance automobile, elle s'est intéressée aux personnes, pas à la tôle. C'est une touche très, très féminine. Aujourd'hui, plus récemment, Véronique Yvon, hein, cette préoccupation pour mourir dans la dignité. Et ça, c'est pas un hasard. toutes les femmes en politique ne sont pas des Madame Thatcher. Mm-hmm. On est toutes influencées un peu. Oui, ça, je suis bien d'accord. Mais on est influencées un peu par notre parcours. Il y a eu pendant trop longtemps une division des rôles dans la société. Mm-hmm. Longtemps, on a été identifiés à celles qui prenaient soin des autres, qui faisaient attention, qui soignaient. Et ce genre d'enjeu-là, ça se répercute, y compris dans le type de leadership qu'on exerce, ouais. y compris dans les choix de dossiers qui vont nous motiver, qu'on va vouloir pousser de l'avant au bénéfice de tout le monde.
Un des trucs qui est important de soulever, c'est que toutes ces femmes que vous avez nommées et toutes les réalisations qu'elles ont faites, ouais. on s'entend dessus que c'est loin que d'être que pour des causes pour la femme.
Bien
ou
sûr.
Pour elles, ce sont des choses qui bénéficient à l'ensemble de la population.
Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on a encore plein de ces enjeux-là aujourd'hui sur lesquels il faudrait revenir. Mm-hmm. Il y a des pas énormes à faire encore sur la conciliation famille-travail, sur la modernisation de la législation du travail. Là, je reviens à un secteur que je connais bien.
J'allais le faire de toute façon, donc
c'est
bien.
C'est terrible. Tu regardes l'état des lois du travail, on a l'impression qu'on sort de la dernière guerre, que tout le monde est salarié à temps complet, travaille deux jours du lundi au vendredi, les protections sociales, hein, que ce soit l'assurance-emploi, l'accès à la loi sur l'équité, la régie des rentes, etc., sont liées au statut de salarié alors que t'as de moins en moins de monde qui se retrouve dans cette situation-là. Ouais. Ben, brasser le pommier dans ce secteur-là, ça va être important. Et je souhaite que ce soit autant une femme qu'un homme qui le fasse, mais les femmes subissent beaucoup les contre-coups de ces situations-là et il est possible que elles aient aussi un rôle important à jouer pour forcer le changement.
Imaginez, considérant que vous êtes retraitée du monde syndical, mm-hmm. le propos que vous tenez aujourd'hui, heureusement, la militante ne prend pas sa retraite finalement parce que visiblement, vous avez des opinions sur beaucoup de sujets. Vous vous exprimez sur plusieurs tribunes et on est content que vous soyez sur la nôtre en ce moment. Il y a plein de causes qui vous tiennent à cœur, Sandra.
Moi, ben oui. Et je vais vous dire, mon histoire d'amour avec la CSN, c'est beaucoup ça. C'est une organisation, bien sûr une organisation syndicale, mais qui va bien au-delà de négocier des conventions collectives. Mm-hmm. Et Dieu sait que c'est noble, tout ça. Mais on va s'intéresser, par exemple, à l'avenir de l'éducation, aux politiques de santé, aux questions d'environnement, etc., y compris aux questions politiques. Moi, écoutez, dans ma vie, j'ai eu à m'impliquer sur d'autres genres de sujets, la défense de la langue française, la question nationale même. Parmi des beaux moments que j'ai passés à la CSN, c'était autour du référendum de 95.
Parce que, pour mettre tout le monde en contexte, c'est depuis 1980 que vous êtes affilié à la CSN, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que moi, j'étais affilié bien avant ça.
Ah,
mais mes premiers postes de responsabilité, oui, je les ai pris dans une fédération en 1980, ensuite au niveau de la région, et puis plus tard, dans les années 90 et 2000, au niveau de la Confédération
elle-même. Je voulais simplement exprimer le fait que ça ne commence pas en 2002, votre participation à la CSN. Mais justement, ça, on en discutait un peu plus tôt ce matin, avant d'entrer en onde, votre rapport au référendum de 95. Je trouvais ça extrêmement intéressant. La modulation, l'adaptation, le besoin d'un discours qui s'adressait aux femmes pour les enrôler dans l'option du oui en 95.
Oui, ben alors écoutez, le référendum de 95, il s'est fait sous l'égide de la loi sur les référendums. Alors, c'est des comités parapluie. Ça incluait la société civile, dont les organisations syndicales qui avaient des mandats très clairs en faveur de la souveraineté, des groupes féministes aussi, des groupes de tout horizon. Et à un moment donné, un constat qu'on a fait peut-être une trentaine de jours avant l'issue finale du référendum, c'était de constater qu'il y avait un retard important du oui chez les femmes. Et là, pour plusieurs d'entre nous, c'était assez facile de comprendre pourquoi.
Okay.
Les leaders qu'on mettait à l'avant-scène étaient toujours des hommes. Je questionne pas là, leur qualité en tant que leader, en tant qu'orateur, leur capacité d'entraîner les foules. Mais il fallait quelque part aussi trouver un forum où tu peux répondre à l'ensemble des citoyens et leur faire voir comment ce projet extrêmement important était un plus pour elles, était un plus pour leurs valeurs, était un plus pour leur famille. Et à partir de ça, des femmes comme Nicole Boudreau se sont impliquées là-dedans, Pauline Marois, Louise Arel, Françoise David, qui était à la Fédération des femmes, plein d'entre nous, plusieurs militantes, aussi Lorraine Gay. Et il y a eu toutes sortes de tournées, d'occasions de débattre avec les femmes, puis avec un un résultat qui était intéressant. Ma foi, on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait au niveau du référendum, mais au moins, les femmes ont cessé de tirer de l'arrière dans l'appui au oui.
Mm-hmm. Je reviens à votre travail de présidente de la CSN. Par rapport, justement, on en parlait en tout début d'entrevue, c'est un milieu qui est extrêmement masculin, n'est-ce pas? C'est bien normal. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui... On se retrouve aujourd'hui, en 2015, là, un syndicat ou un syndicaliste au Québec, c'est Rambo Gauthier. Ce n'est pas nécessairement toujours l'approche qui est privilégiée. Non, mais c'est vrai, honnêtement. C'est une image qu'on a, un symbole fort qu'on a en tête en ce moment. Je veux pas trop embarquer là-dedans. Est-ce que, au cours de votre présidence... Il y a des moments où vous avez senti être victime de sexisme, où vous avez senti que dans le cours de négociation XY, l'autre personne croyait que vous alliez plier plus facilement parce que vous êtes une femme, par exemple. Ça a dû arriver des moments comme ça.
Alors écoutez, oui, il y a un travail à faire au sein des organisations syndicales pour changer la perception autour des styles de leadership. Je vais vous raconter une anecdote bien de chez nous. 2 heures après mon élection, il y a une journaliste qui me dit « Mais madame, comment allez-vous faire? Mm-hmm. » On a souvent évoqué, parce que il y avait d'autres candidatures masculines au moment où j'ai été élue, on a souvent évoqué contre vous un leadership qui était, ma foi, très différent de celui de Michel Chartrand. Et là, je suis partie à rire pour précisément dire « Ben, j'émitterai pas ces intonations, je donnerai pas ces coups de gueule, je suis autre chose, je vais essayer d'être de mon temps, pousser d'autres genres de dossiers, etc. » Donc ça, c'est présent. Je dirais pas qu'il y avait un fort courant sexiste. D'ailleurs, les effectifs de la CSN, 50% de femmes, 50% d'hommes. Hein? Alors, c'est aussi ça, la réalité, et c'est un facteur important pour la promotion des femmes à des postes de responsabilité. Mmh. Alors, ça joue beaucoup. Mais très souvent, on va percevoir les femmes comme des femmes de dossier. On attend de toi que tu sois quelqu'un de studieux, sérieuse, etc. Ouais. Tu vas bien le faire. Alors, moi, j'avais plutôt ce genre d'image-là à l'intérieur de la centrale, et spontanément, là, je sollicitais pas, je rêvais pas depuis ma naissance d'être présidente de la CSN, mais un jour, il faut se poser des questions et se dire, non, le pouvoir, là, c'est pas juste quelque chose de sale, dont il faut fuir la proximité, au contraire, c'est l'occasion de saisir cette opportunité-là pour changer les choses, changer la vie. Ça a été ma grande motivation, et je pense que oui, il y a une démonstration à faire, que le leadership ça peut s'exercer autrement. Écoutez, c'est d'abord de convaincre, c'est d'abord de rallier, c'est d'abord de rassembler. On vit dans un monde où la population est plus diversifiée, le niveau d'éducation est plus important. Disons qu'il y a moins de place pour les arguments d'autorité. C'est pas un recul, c'est un progrès.
Tout à fait. Dernière question, parce qu'il manque cruellement de temps. On a parlé du plancher de verre avec ses fissures. On a parlé du plancher collant, du plafond de verre plutôt. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un ABC, un mode d'emploi, un guide pratique qu'on a parlé, que ce serait donc le fun qu'il y ait davantage de femmes représentées dans les milieux syndicaux, en politique? Quoi faire concrètement pour leur donner cette place-là?
Ben, écoutez, je pense que les femmes ont à questionner leur propre confiance en elles. On a besoin peut-être davantage que les hommes de les solliciter. Quand un poste se libère, là, il y a 5 gars qui vont te dire tout de suite, je vais y aller. Personne va te parler, j'ai tué compétences, tata. Alors, il y a des différences entre les hommes et les femmes à cet égard-là. Il y a aussi le poids de la maternité. La question du partage des responsabilités familiales. Et de ce côté-là, je rêve d'une société qui se donne plus de moyens encore autour de la conciliation famille-travail. Mm-hmm. Les femmes sont encore largement désavantagées par ça. Regardez, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, quand est arrivée la fameuse pilule anticonceptionnelle, ça a été le déblocage pour voir doubler en moins d'une décennie le nombre de femmes qui étaient sur le marché du travail. On a fait des pas de géant aussi avec la mise en place, par exemple, des CPE.
Ouais.
Ben, moi, je pense qu'il faut trouver aussi les moyens de mieux partager les choses entre les hommes, les femmes, que les organisations, les employeurs prennent leurs responsabilités aussi à cet égard-là.
Et ces grands changements-là n'auront pas le choix que d'être faits du niveau politique. Et dans quelques instants, on va s'entretenir avec Catherine Fournier, qui est candidate pour le Bloc québécois dans la circonscription de Montarville. Claudette Carbonneau, entre autres, présidente de la CSN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super intéressant.
Merci.
Et entêté d'avenir se conclut dans quelques instants en compagnie de Catherine Fournier. À plus. Et pour terminer cette émission portant sur les femmes et le combat national, ben on va parler de relève et d'avenir avec moi à l'autre bout du fil, l'une des conseillères générales de la SSJBM, mais également candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Montarville, Catherine Fournier. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir.
Et donc voilà, vous êtes candidate du Bloc québécois dans Montarville, qui est une circonscription considérée comme prenable par plusieurs analyses politiques pour le Bloc. Pourtant, on y présente du côté du parti, ben la plus jeune candidate. Vous n'avez que 23 ans, c'est une belle preuve de confiance quand même, parce qu'habituellement, il y a davantage de têtes grises là, sur les poteaux électoraux.
Tout à fait, c'est une belle preuve de confiance. Il faut quand même dire qu'au Bloc québécois cette année, ce qui est très intéressant, c'est le nombre de candidatures en bas de 35 ans. Si je ne me trompe pas, c'est environ le tiers de nos candidats, donc qui ont moins de 35 ans, ce qui est très intéressant. Ça montre que de la relève au Bloc, que la relève est impliquée et qu'on lui laisse une place également.
Et parallèlement, ben, les jeunes ont énormément servi à maintenir, à faire survivre le Bloc, à lui faire cette traversée du désert depuis la grosse claque que constituaient les dernières élections fédérales.
D'ailleurs, moi, c'est ça qui a été la bougie d'allumage pour mon implication politique. Là, tout de suite, je me suis dit, bon, si je veux changer les choses, il faut que je m'implique moi aussi. Donc ça m'a amené à joindre le Parti québécois parce qu'à ce moment-là, j'étais pas certaine de ce qui allait advenir, le Bloc. Mais malgré tout, il y a des jeunes qui, dès le lendemain là, de la défaite, se sont impliqués au Bloc québécois. Un groupe de jeunes au Forum Jeunesse du Bloc qui n'étaient pas nécessairement là en 2011, qui sont venus après la défaite pour contribuer à reconstruire le Bloc québécois, pour avoir tenu le fort ces dernières années. Puis je pense que le résultat de cette élection-ci, ben ça en témoigne, en voyant tous les jeunes qui se présentent dans les différents comtés à travers le Québec. Puis on peut parler des candidats, mais parlons également des organisateurs. Il y a énormément de jeunes qui sont organisateurs du Bloc québécois cette année, qui occupent des fonctions de directeur de campagne, ce qui est une tâche assez colossale, je dois le dire. Ensuite de ça, il y a plusieurs jeunes aussi qui occupent d'autres postes, comme ceux d'agents officiels. Bref, on a vraiment une équipe dynamique cette année au Bloc québécois qui se mêle avec les gens plus d'expérience. Donc, ça fait un très, très beau mélange. Puis moi, je suis pas découragée par les chiffres des sondages actuels. Je pense que le mélange de cette équipe-là est un gage de succès. Puis on ne peut que se relever dans les prochaines semaines.
Vous avez parlé, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que le ratio homme-femme est relativement semblable ou encore une fois, il y a un certain clivage à ce niveau-là?
Il y a toujours un certain clivage, c'est certain. Je pense que ça se retrouve dans la majorité des organisations politiques. C'est quelque chose qu'on doit regarder sérieusement dans les années à venir. Je dois dire que je suis aussi déçue du nombre de femmes qu'on peut compter dans nos rangs pour cette élection-ci. Il va vraiment falloir s'y attaquer parce que le Bloc québécois, on a des belles propositions en matière de parti homme-femme. Par exemple, on propose d'avoir un incitatif financier aux partis politiques qui font élire un nombre de femmes, donc de ne pas non plus s'attaquer seulement aux candidates qui sont présentées aux élections, parce qu'on s'entend que c'est facile de juste placer des femmes dans des circonscriptions non prenables, mais vraiment de regarder le résultat aux urnes, donc de faire en sorte que les partis aient un incitatif à présenter des femmes dans des circonscriptions prenables pour assurer une meilleure représentation au Parlement. Donc ça, je suis très fière d'être dans un parti politique qui prône une telle mesure. Par contre, là, il va falloir que les babines suivent les bottines aussi, puis qu'on s'y mette également dans les prochaines années. Je crois que cette année, on a eu un défi particulier là au Bloc québécois. C'est sûr qu'avec la transition de Mario Beaulieu à Gilles Duceppe, puis également les sondages qui étaient pas très bons, là, faut se le dire, peut-être qu'une femme, ça représente un défi supplémentaire de la convaincre de se lancer en politique.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'avec des sondages un peu plus incertains, je pense que ça ajoute une couche de difficulté pour le recrutement de candidatures féminines. Par contre, moi, j'espère que dès le 20 octobre, on va commencer à réfléchir à une manière d'attirer davantage de femmes dans nos rangs. Parce que c'est clair que là, je pense que le chiffre exact, c'est 28% cette année. Je peux pas dire que je suis satisfaite personnellement de ça. Par contre, on a fait des efforts, mais il va falloir continuer à en faire puis redoubler d'ardeur pour les prochaines élections.
Catherine Fournier, il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés depuis le début de l'entrevue et qui se disent « Voyons, ce nom-là me dit quelque chose ». Et c'est un peu comme moi, bien candidement, quand je me suis mis à préparer cette entrevue-là, vous doutez bien d'où je m'en vais avec ça. Puis je me sens un peu poche de ramener ça sur le tapis, mais en même temps, c'est une illustration fantastique jusqu'à un certain point. Il y a plusieurs personnes qui vous ont connu, en fait, grâce à des propos sexistes à votre endroit dès la première journée de la campagne. Je suppose que vous êtes tannée d'en parler, non?
Ben, disons que j'ai fait quand même assez le tour là, dans les jours qui ont suivi. J'ai eu l'occasion quand même d'adresser ce sujet-là dans la plupart des médias nationaux, ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est bien rare qu'on va parler des enjeux reliés au sexisme envers les femmes ou plus globalement là, de la condition féminine dans une campagne électorale fédérale ou même au côté du palais québécois. Donc ça, je trouve que c'est un des aspects positifs qu'on peut voir de cette tempête médiatique-là. Puis le dossier est clos. Par contre, comme je l'ai dit dans les nombreuses entrevues que j'ai pu faire là, suivant ces propos sexistes-là, c'est qu'au moins j'espère que ça fait sensibiliser les gens avant d'appuyer sur entrer, par exemple, dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, de réfléchir à ce qu'on écrit, puis de s'assurer de ne pas commettre de propos aussi dégradants que ceux-là. Je pense que c'était un exemple très fort.
Ouais.
Mais faut prendre conscience de ce sexisme ordinaire-là qui peut exister dans la société à tous les jours. Puis également, j'espère que ça va inciter les femmes à le dénoncer tout autant que j'ai pu le faire si elles sont victimes de ce genre de propos.
On est en train de dire, en fait, que ce monsieur-là, c'est pas le diable en personne. Il a retweeté quelque chose de très inapproprié, soit, mais c'est symptomatique. Puis quand vous parliez un peu plus tôt d'éléments qui sont pas motivants pour les femmes et les jeunes femmes de s'enrôler en politique, ben jour 1 de la campagne, un événement comme ça arrive, ce n'est pas motivant.
Oh non, tout à fait. C'est ça que j'ai pleuré aussi. Là. Comment voulons-nous attirer plus de femmes et de jeunes femmes en politique si des commentaires comme ça nous sont servis? Moi, je donnais comme exemple, là, si on regardait la photo qui avait été utilisée pour faire le commentaire, j'avais exactement le même regard que M. Mario Beaulieu, qui pourtant, on m'a accolé certaines pensées à caractère sexuel qu'on n'aurait jamais dit de M. Beaulieu. Donc, je pense que puis on n'aurait jamais dit ça également si j'avais eu 60 ans, à mon sens. Mm-hmm. Donc, ça témoigne, en fait, du traitement qu'on peut réserver aux jeunes femmes en politique.
Qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça pour faire sa place comme jeune femme en politique, ne serait-ce que de courir la chance? On dirait qu'on parle d'un concours, mais de se présenter dans une circonscription en élection fédérale à 23 ans, c'est quelque chose quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire sa place? Évidemment, je suppose que je devine la réponse comme quoi ce sera de l'effort et de la persévérance et du travail.
Bien sûr, parce que si on veut faire sa place, ben il faut la prendre, cette place-là, puis pas se laisser décourager par certains commentaires qu'il pourrait y avoir à l'égard de l'âge ou de l'expérience. Donc, faut pas attendre qu'on nous donne la place, parce que c'est certain qu'à dans la vingtaine, la place va pas venir en claquant des doigts, mais il faut la prendre, cette place-là. Mm-hmm. Puis ça, c'est à force de travail puis de détermination, puis faut croire en soi, c'est bien certain. C'est une question de confiance d'abord et avant tout.
Et là, c'est l'heure de la plug. On peut vous suivre justement sur les réseaux sociaux. Il y a un site web si on veut davantage d'informations à votre sujet, puis sur les idées du Bloc également. Ben, quelles sont les adresses rapidement, là?
Oui, tout à fait. Donc, mon site web, c'est catherinefournier.québec. Et puis, sinon, les gens peuvent me suivre là, sur Twitter à commercial CAATHS. Puis également sur Facebook, Catherine Fournier pour Montarville.
Il me reste deux questions, Catherine. Tout d'abord, c'est même pas une question, c'est de réitérer l'importance d'aller voter, que ce soit le 19 ou par anticipation, peu importe l'allégeance politique.
Oui, tout à fait. C'est très important. Puis ce qui était également intéressant de savoir au fédéral, c'est qu'on peut voter tous les jours, dès maintenant, en fait, au bureau de votre directeur de scrutin. Donc, vous pouvez aller chercher là, sur Élection Canada où est situé le bureau de votre directeur de scrutin. Puis c'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Donc, il n'y a vraiment aucune raison pour ne pas avoir le temps d'aller voter. Sinon, également, le vote par anticipation, les 9, 10, 11, 12 octobre. Donc, c'est quand même 4 jours. Et sinon, évidemment, le jour J, le 19 octobre.
Vous voyez, je suis journaliste et je viens d'apprendre qu'on pouvait voter dès maintenant. C'est mal publicisé, ma foi. Allez-y.
Et pardon, j'ai oublié de dire aussi qu'il y allait avoir un projet pilote qui se fait dans différentes institutions d'études supérieures au Québec. Je sais que l'Université de Montréal en fait partie. Je crois que l'Université Laval également et l'Université McGill, si je me trompe pas, puis il y a peut-être 2-3 autres institutions scolaires. Mais ça va être possible de voter pour le candidat de notre comté. Donc, comme ça a été fait là, en 2014, les étudiants vont pouvoir, par exemple, si quelqu'un habite par exemple, à Sherbrooke, mais qui étudie à Montréal, ben, il peut voter dans son école à Montréal pour son candidat dans Sherbrooke.
Donc, non seulement les jeunes s'impliquer au niveau politique, mais également s'impliquer au niveau du vote, c'est très important aussi. Et j'en profite, pendant que ça me passe par la tête, pour partager quelque chose de personnel. Assurez-vous que votre changement d'adresse a été fait pour tous ceux qui ont déménagé le 1er juillet, parce que sinon, on se tire dans le pied.
C'est très important. Non, c'est ça. Assurez-vous d'être bien inscrit sur la liste électorale. C'est pour ça que c'était bien d'essayer d'aller voter plus tôt que tard. Comme ça, s'il y a un problème, là, on peut faire les ajustements, puis on n'attend pas la dernière minute au 19 octobre.
Pas de mauvaise surprise. Une dernière question, Catherine Fournier, et j'ai pas le choix de la poser, cette question-là. Si on avait un même résultat du côté du Bloc qu'à l'élection précédente, qu'est-ce qui se passe?
Ben moi, je pense que la question se pose pas pour l'instant. On s'apposerait le 20 octobre, si tel est le cas. Mais moi, pour l'instant, là, je reste entièrement confiant des résultats du Bloc. Puis je pense qu'on peut s'attendre à une bonne délégation pour porter la voix des Québécois à Ottawa le 19 octobre prochain.
Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Catherine Fournier, l'une des conseillères générales de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, également candidate bloquiste dans la circonscription de Monterville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Et avant de conclure cette édition du 26 août d'Entêté d'avenir en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, eh bien, Maxime Laporte, évidemment, oui. Vous prononcez sur les élections fédérales. Un petit mot en une minute sur le Oui Québec.
D'une part, il y a la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est membre du conseil d'administration du Oui Québec. À la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, en Assemblée générale, on a décidé ouvertement d'appuyer le Bloc. Les Oui Québec, eux, ont pris une position, en fait, non partisane, mais ça les empêche pas, effectivement, de mener une campagne citoyenne indépendantiste qui vise un peu, cette campagne-là s'appelle Une élection de trop. On invite les gens à aller sur la page Facebook de Oui Québec ainsi que sur le site web souveraineté.info. Dans le fond, il s'agit, n'est-ce pas, Claudette, de sensibiliser la population à la question nationale. Mm-hmm. On trouve qu'on parle pas assez des enjeux liés au système canadien en tant que tel, en fait, ces dernières années. Alors, les Oui Québec, les organisations unies pour l'indépendance, se sont donné pour mandat de sensibiliser la population, de parler, de dire quels sont les blocages que vit le Québec dans le système canadien. Mm-hmm. Et donc, ça se traduit, en fait, par des images qu'on propage, en fait, sur les réseaux sociaux et qui montrent très clairement, par exemple, eu égard à la diminution du poids politique du Québec depuis les débuts de la Confédération. On parle de 34% 23%, tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche, par exemple, à la caisse d'assurance emploi. Donc, il y a eu pratiquement des détournements finalement des surplus de la caisse d'assurance emploi. Mm-hmm. Alors, c'est une campagne, en fait, qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux.
Une élection de trop. On va aller vérifier ça. Merci beaucoup. C'est ainsi donc qu'elle se termine cette édition du 26 août 2015 de CIBL reçoit Entêté d'avenir en collaboration encore une fois avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. On remercie nos trois invités, Nicole Boudreau, Claudette Carbonneau. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Catherine Fournier, les collaborateurs de la SSJBM, Claude Boisvert et Maxime Laporte. Merci encore une fois. Philippe Laramé, à la mise en onde, je ne pourrais qu'assez te remercier pour aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Touzelbande. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et si vous êtes arrivé à mi-chemin encore une fois, ben la balado-diffusion, ça existe, cibl1015.com. Et de toute façon, on sait que vous allez rester avec nous tout au cours de la journée. C'est 100% franco qui suit. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois.